en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Comment se débarrasser de ce trop-plein de CO2 que nous injectons chaque jour un peu plus dans l'atmosphère? Une des solutions envisagées pour lutter contre ce gaz carbonique consiste à capturer ce gaz émis par des sites industriels et à le stocker dans des formations géologiques profondes. La séance de l'Académie des sciences du 19 mai 2009 était consacrée à la séquestration du CO2. Elle était organisée par Claude Allègre et Vincent Courtillot de l'Académie des sciences. Ils ont fait intervenir quelques 8 scientifiques pour faire le point sur les méthodes de piégeage et de stockage du CO2 en lieu sûr. Nous savons qu'au temps des grandes aires géologiques, le taux de CO2 dans l'atmosphère a beaucoup fluctué, le CO2 se transformant au cours du temps en carbonate, en d'autres termes en petits cailloux. C'est ce que tente aujourd'hui de faire les chercheurs, stocker le CO2 dans des réservoirs souterrains étanches et le comprimer de manière à ce qu'il se solidifie. Laissons place sans plus tarder aux scientifiques. Canal Academy retransmet l'intégralité de cette séance que vous retrouverez en 3 parties sur notre site. Dans ce premier volet, écoutez les interventions d'Éric Favre du laboratoire des sciences du génie chimique ENSIC à l'université de Nancy. Il s'exprime sur les problèmes liés à la capture de CO2. Alain Bonneville du laboratoire de géosciences marines à l'Institut de physique du globe de Paris évoquera dans un second temps les expériences de stockage en cours. Mais pour commencer, place à Claude Allègre pour l'introduction de cette séance.
Chers confrères, chers amis, mesdames, messieurs, quelques mots d'introduction. D'abord, quelque chose de général. Nous avons eu l'occasion de discuter avec le président, et le président élu et un certain nombre de personnes sur le fait que c'était très gentil de se plaindre de telle et telle menace qui pouvait y avoir sur la planète, mais qui serait plus utile, plutôt que de se plaindre, de trouver des solutions. Et par conséquent, sur les différents problèmes, de voir quelles peuvent être les solutions. Solutions pour répondre aux défis de l'énergie, par exemple, en développant la voiture électrique. Solutions avec le problème de la faim dans le monde, avec la question des OGM, etc., etc. Le problème de savoir comment on peut répondre au défi de l'eau, qui est le grand défi dans les années à venir, et ainsi de suite. Et le premier de ces thèmes, c'est la séquestration du gaz carbonique. Je voudrais juste dire un petit mot pour replacer ce débat. Alors, le gaz carbonique augmente dans l'atmosphère. Il était de 280 parties par million au début du XXe siècle. Il est de 380 parties par million. Et comme vous avez pu voir, les grands colloques qui consistent à dire qu'il faut le réduire ont comme résultat net qu'il continue à augmenter et qu'il va continuer à augmenter au même rythme, puisque c'est des colloques de type IACA. Donc, on peut discuter du problème de... Certains pensent que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère est plutôt utile, parce qu'on augmente la productivité agricole, parce qu'on augmente la température dans des zones aujourd'hui froides, etc. D'autres pensent que c'est catastrophique. Il y a un sujet sur lequel l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère est, sans aucune discussion possible, nuisible, c'est l'augmentation de l'acidité de l'océan. L'acidité de l'océan est une réalité, les coraux sont en train de diminuer, et pour tous ceux ici qui aiment les huîtres, il faut penser que dans quelques années, si ça continuait, vous n'auriez même plus d'huîtres. Donc, il y a une vraie raison pour s'occuper du problème du CO2. Ce problème du CO2, ce n'est pas un problème technologique. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vais rappeler quelques faits. Il faut savoir que si aujourd'hui on détruisait l'ensemble des roches carbonatées de la planète, l'atmosphère de la Terre serait, comme celle de Vénus, 85% de CO2, et la pression à la surface de l'atmosphère serait de 12 atmosphères. Donc, voilà comment était probablement l'atmosphère primitive. Ce qui veut dire que la Terre a su trouver une méthode pour séquestrer ce CO2 et le transformer en carbonate. Il faut savoir aussi qu'au cours des âges géologiques, il y a eu des grandes fluctuations de teneur en gaz carbonique. On sait maintenant d'ailleurs que ces fluctuations ne précédaient pas les augmentations de température, mais les suivaient. Mais néanmoins, ces augmentations ont diminué aussi. Donc il y a eu des mécanismes pour réguler ce CO2. Ces mécanismes, c'est un trou aujourd'hui dans la connaissance fondamentale que nous avons. Nous ne connaissons pas vraiment par quel mécanisme le CO2 s'est transformé en calcaire complètement. Bien sûr, nous avons des tas d'équilibres thermodynamiques, etc. Mais nous ne savons pas bien comment, dans cette atmosphère primitive, ça s'est piégé. Or, il faut bien comprendre que la solution, elle est là. La solution, elle est là parce que, d'un autre côté, on va en parler toute cette journée, on peut effectivement injecter du CO2 en profondeur. On a un certain nombre de propriétés du CO2 qui font qu'à haute pression, il est plus lourd que l'eau, etc., etc. Sauf que si se produit un accident géologique, ce qu'on appelle dans l'industrie pétrolière un blow-up, et qu'il y ait une explosion de ce CO2 piégé à l'intérieur, toute cette affaire s'arrêtera instantanément. Par conséquent, il faut bien comprendre que même dans le cas de la séquestration du CO2, le but ultime, c'est que ce CO2 se transforme en carbonate. Là, ça sera des cailloux, on pourra même l'utiliser pour construire des maisons. Donc, voilà dans quel contexte se pose ce problème. Et je voudrais insister là-dessus parce que l'aspect recherche fondamentale est essentiel dans cette question. Ceci étant, le démarrage de cette affaire n'est pas dû à la recherche fondamentale, il est dû aux pétroliers qui, en injectant du CO2 dans des gisements minéraux, dans des gisements pétroliers pour récupérer le pétrole, se sont aperçus qu'effectivement, ils pouvaient stocker du CO2. Deuxièmement, leur argument étant qu'il y a des gisements de gaz qui existent en profondeur depuis des millions d'années, par conséquent, dans certaines circonstances, la géologie permet d'avoir des réservoirs étanches. Donc il y a eu des expériences qui se sont faites, vous allez en entendre parler, vous allez connaître les résultats de ces expériences. Et par conséquent, nous sommes aujourd'hui dans une double approche, une approche, je dirais, extrêmement pragmatique, c'est-à-dire d'injection de CO2 dans la profondeur, de surveillance des réservoirs, de géologie, d'imagerie géologique. Et puis nous sommes aussi dans un aspect fondamental de savoir comment on peut piéger effectivement ce CO2 et en conséquence de quoi, comment on peut faire le lien entre les deux. Voilà le thème général de cette affaire. Il faut jamais oublier, comme le dit très bien l'ancien directeur général de l'UNESCO, pour qu'il y ait recherche appliquée, il faut qu'il y ait recherche. Donc, ces deux choses vont de pair dans ce cas de la séquestration du CO2. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire ce sujet. Nous allons commencer par un premier problème. Naturellement, avant de le séquestrer, ce CO2, il faut le capturer. Et le capturer, il faut trouver des méthodes qui permettent de séparer le CO2 qui est utilisé dans les usines, dans les fonderies, etc., pour pouvoir ensuite l'injecter dans le sous-sol ou le transformer en calcaire. À cet effet, je voudrais excuser notre confrère Guy Ferret qui aurait dû participer à ce colloque, mais qui aujourd'hui précisément reçoit à Rome un prix pour son travail sur la séparation du CO2, dont le premier orateur parlera. Voilà l'introduction de ce... Et puis ensuite, nous allons voir quel est l'état des expériences de stockage en cours, ce que fera Alain Bonneville. Ensuite, on parlera de ce problème de la surveillance des réservoirs, de la sécurité des réservoirs. Et puis, on parlera de problèmes qui intéressent les Français, puisqu'il y a un programme qui se déroule, qui a déjà commencé, qui est à Lacq, et qui est fait par la société Total. Et puis ensuite, on parlera des problèmes des carbonates. On en parlera sur le plan expérimental. François Guyot en parlera. Et puis aussi de la fabrication de carbonates sur le terrain. Et vous verrez qu'il se fabrique des carbonates relativement facilement aujourd'hui, mais dans des circonstances qui sont précises. Enfin, pour terminer, nous parlerons des perspectives scientifiques et économiques et également à la fin d'une table ronde pour essayer de faire le point. Donc j'appelle Monsieur Éric Favre pour faire la première introduction en le remerciant. C'est la capture du CO2.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon exposé va donc traiter non pas de la séquestration du dioxyde de carbone, mais de l'étape qui la précède, l'étape de capture. Mon exposé sera divisé comme suit. Après une courte introduction et quelques chiffres pour replacer le contexte des émissions de gaz à effet de serre et plus spécialement le contexte de la capture, j'essaierai d'identifier l'état de l'art en termes des procédés de capture actuels testés à l'échelle des démonstrateurs pour essayer d'identifier dans un deuxième temps quelles pourraient être les technologies de demain et les défis et enjeux associés. Donc, en guise d'introduction, nous vivons ce que d'aucuns appellent la civilisation des hydrocarbures, qui conduit donc à des émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre, au premier titre desquels le dioxyde de carbone. Et donc en 2007, les émissions anthropogéniques de dioxyde de carbone peuvent être estimées à environ 27 milliards de tonnes de CO2 par an. Si on regarde dans le contexte national, l'inventaire réalisé par le CITEPA conduit à environ 400 millions de tonnes de CO2 produites sur le territoire national. Et on voit sur le graphique du bas que ces émissions sont stables depuis une vingtaine d'années. Or, différents rapports, que ce soit le rapport Chambol ou plus récemment le rapport Sirota, nous incitent à diminuer ces émissions d'un facteur 2 ou 4 à l'horizon 2050. Pour y parvenir, en dehors de la diminution de la consommation d'énergie, qui n'est pas concevable tout du moins à l'échelle planétaire, on peut jouer sur l'efficacité énergétique, promouvoir les énergies renouvelables et les énergies non émettrices de CO2, et capturer et stocker le dioxyde de carbone. C'est donc dans ce schéma-là que s'inscrit la présentation, sachant qu'au niveau de l'Union européenne, on a préconisé le 3x20, diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre, une augmentation de 20% d'efficacité énergétique, 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Et donc la technologie CCS permet d'assurer un effet de levier tout à fait conséquent sur ces émissions de gaz à effet de serre. Le principe est rappelé rapidement ici. Partant d'un point d'émission, l'étape de capture va assurer différentes fonctions. Une fonction de concentration du CO2 pour atteindre un certain niveau de pureté sur lequel on reviendra. Une fonction de purification et une fonction de séchage pour pouvoir conduire à l'étape de compression aux environs de 100 bars avant de passer au transport jusqu'au lieu d'injection et de stockage. Cette filière présente un coût qui donne lieu à des estimations sur une plage assez large, mais qu'on pourrait chiffrer aujourd'hui, je prends le risque de donner un chiffre, d'environ 40 euros par tonne de CO2. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est le coût prépondérant qui est imputable à l'étape de capture. L'étape de capture dans ce chaînage technologique correspond à 60 à 80% du coût global, et ce tant d'un point de vue des coûts opératoires que des coûts d'investissement. D'où l'importance d'identifier la technologie de capture la plus efficace et la plus économique. Cette technologie pourrait s'appliquer au point d'émission à fort tonnage pour faire des économies d'échelle. Si on prend l'inventaire au niveau de la planète, on aboutit à un potentiel d'application de l'ordre de 13 gigatonnes de CO2 par an, donc près de 50%, dont 10 gigatonnes pour les seules centrales thermiques. Si on regarde au niveau national, on peut s'inspirer des sites à fort tonnage d'émissions identifiés par le programme national d'allocation des quotas. Et pour la France, on va tomber sur les sites pour lesquels on fait de la production d'énergie par centrale thermique, les activités industrielles qui représentent au total environ 40% des émissions. Et l'application de cette technologie pourrait donc traiter aux environs de 110 millions de tonnes de CO2 par an, à mettre en regard des 400 millions que j'évoquais au début de mon exposé. Donc ça peut être un effet tout à fait considérable si on déploie cette technologie. Comment assurer la capture du CO2? on est là dans un problème classique de conception et de dimensionnement d'un procédé de séparation. Il faut d'abord définir le problème. Et pour définir le problème, il faut clairement disposer des conditions à l'entrée. Quelle va être la composition du mélange à traiter, la température, la pression, et puis les contraintes de procédé. Quelle est la pureté visée, quel est le taux de capture. Ce premier bloc en jaune va permettre de faire un crible de procédés qui permettent de répondre à ces contraintes et d'identifier un très grand nombre de procédés potentiels qui vont pouvoir assurer un taux de capture de 90%, ce qui est l'objectif le plus couramment cité, et une pureté en termes de teneur en CO2 d'au moins 90%. Donc on a un portefeuille de solutions technologiques représenté par le rectangle orange qui peut être très très large. Mais ce portefeuille de solutions technologiques, il s'évanouit très rapidement si on commence à regarder le coût associé à ce procédé avec deux grands indicateurs. Le premier indicateur, c'est la dépense énergétique associée. Combien d'énergie va être nécessaire pour capturer ce CO2 ? On va l'exprimer en gigajoules thermiques par tonne de CO2 et il va conditionner au premier ordre les coûts opératoires, les coûts de fonctionnement du procédé. Le deuxième indicateur très important, c'est un indicateur de productivité. Combien de tonnes de CO2 on peut capturer par mètre cube d'installation et par unité de temps. Ce deuxième indicateur va conditionner au premier ordre la taille des installations. Et donc, même si c'est simplificateur, les coûts d'investissement. Et donc, si on arrive à estimer ces deux indicateurs correctement, on va pouvoir, à l'aide de schémas d'analyse technico-économique, aboutir au coût de la filière ou du procédé de l'étape de captage en euros par tonne de CO2 capturée. Il est utile de rappeler à ce titre le paysage très très large qui concerne la technologie CCS. Très très large parce que d'une part, les conditions à l'entrée du procédé peuvent être très différentes selon qu'on a à traiter une centrale au gaz, une centrale au charbon, une industrie sidérurgique, une cimenterie ou par exemple les productions de biocarburants de première génération par fermentation. Ce qui est représenté sur l'abscisse de cette courbe, c'est la teneur en CO2 des mélanges à traiter et on voit qu'elle couvre une très large plage. Si maintenant on s'intéresse à la pureté visée, symbolisée Y, en sortie de procédé, on peut s'associer différentes puretés cibles et on voit que le travail minimal théorique de séparation associée va être bien évidemment une fonction croissante de la pureté et une fonction croissante lorsque l'on va diminuer la teneur en CO2 dans le mélange à traiter. On constate à ce stade qu'une capture à partir de l'air, à partir des 370 ppm contenus dans l'air, conduirait vraisemblablement à des technologies très chères du point de vue de l'énergie associée à la capture. Maintenant, ce calcul est un calcul purement fictif, puisqu'il considère une opération réversible. Or, tout procédé va induire des irréversibilités qui vont se traduire par un travail réel de séparation, beaucoup plus important que le calcul effectué ici, ce qui nous permet d'estimer l'efficacité énergétique du procédé de capture. Et cette efficacité énergétique est l'objet de tous les enjeux, puisque c'est là qu'on va pouvoir aboutir à une dépense énergétique minimale, chiffrée au niveau de l'Union européenne à 2 gigajoules par tonne de CO2 capturée pour pouvoir passer la rampe. Si on prend l'état de l'art au niveau des démonstrateurs, parmi les nombreuses technologies potentiellement utilisables, on peut en retenir deux principales qui sont aujourd'hui testées dans des installations avec des capacités de capture supérieures à 1 tonne/heure. Et la première de ces technologies, qui est un peu la technologie de référence, elle nous vient du domaine pétrolier du traitement du gaz naturel, c'est l'absorption dans un mélange liquide, une phase aqueuse qui contient un solvant chimique basique qui va pouvoir capturer le CO2 qui est acide. La molécule de référence est la monoéthanolamine à hauteur de 30% en solution aqueuse. Et donc les fumées provenant d'un site industriel ou d'une centrale thermique vont être absorbées dans un fluide liquide qui est dispersé à contre-courant dans un dispositif d'absorption. Le CO2 va passer de la phase gazeuse dans la phase liquide. On va pouvoir libérer ici des fumées traitées en ayant absorbé 90% du flux de CO2 à l'entrée. Le mélange liquide qui a transformé le CO2 en un composé qu'on appelle carbamate va être amené dans un dispositif de régénération. Et là, par apport d'énergie thermique sous forme de vapeur à 120 degrés, on va pouvoir dissocier le composé formé dans la phase liquide pour libérer le CO2 et l'entraîner avec le flux de vapeur. On va récupérer ainsi un mélange de CO2 humide qui, après séchage, donnera un CO2 de très haute pureté, plus de 99%. Le solvant ainsi régénéré va repartir et on fait donc ainsi une boucle interne de recirculation de ce mélange liquide. Cette technologie est connue, elle est appliquée depuis des décennies dans le milieu du traitement du gaz naturel. Elle peut être adaptée aux installations existantes, ce qui a un très grand intérêt, ce qu'on appelle la propriété de rétrofit en anglais. Elle présente une très grande sélectivité, une très grande capacité. On peut absorber typiquement 1 tonne de CO2 par mètre cube d'installation et par jour avec ce genre de technologie. Et donc, puisqu'on s'appuie sur une grande connaissance technologique de ce choix, elle est compatible avec une dynamique de déploiement pour les premiers démonstrateurs. Sa principale pénalité, elle se situe à ce niveau, puisqu'elle est encore trop gourmande en énergie. Je vous rappelle que l'objectif est de 2 gigajoules par tonne de CO2. On voit qu'ici, il y a un facteur 2 environ à gagner. Donc c'est le point faible, et c'est l'enjeu de beaucoup de travaux, minimiser cette dépense énergétique, en jouant soit sur la formulation des solvants, soit sur l'intégration pour utiliser au mieux les forces motrices dans les procédés et répartir au mieux la dissipation irréversible associée à la capture. Un autre problème lié à cette technologie, c'est sa sensibilité à l'oxygène. Elle est employée dans des conditions anoxiques en traitement du gaz naturel. Sur des fumées de post-combustion, il y aura de l'oxygène qui induit une certaine dégradation, typiquement 1 kg dégradé par tonne de CO2 capturé. Et donc cela pose des problèmes du point de vue du coût du solvant qui va être nécessaire pour assurer le remplacement, et puis sur l'évaluation de l'impact environnemental global consécutif aux productions de déchets solides et d'émissions gazeuses avec ces schémas de dégradation oxydatifs. Et puis on cherche aussi à augmenter la compacité des installations pour pouvoir gagner en taille et assurer ce qu'on appelle une intensification de procédé. Donc voici quelques freins à cette technologie qui sont largement étudiés aujourd'hui par la communauté de recherche et de technologie. Plutôt que de traiter en bout de chaîne les effluents, on peut traiter le problème de la dilution à l'azote en amont. Et là, on aboutit sur la technologie d'oxycombustion, sur laquelle je passerai rapidement, puisque je pense que l'exposé de M. Aymar sur le projet de Total rappellera le principe qui consiste cette fois-ci à assurer une combustion non plus avec de l'air, mais avec de l'oxygène. Oxygène que l'on sait très bien produire avec une très haute pureté par cryogénie, c'est un très gros marché au niveau mondial. Et donc, pour éviter des températures de flamme trop élevées, on va être amené à recycler le CO2. Et à nouveau, là, on va tomber sur un frein et un verrou qui est la consommation énergétique spécifique pour la production d'oxygène du point de vue de cette technologie et des problèmes d'extrapolation à l'échelle étant donné la taille des installations visées pour les centrales thermiques au charbon. Vous avez ici une photo du site industriel de Vattenfall en Allemagne sur le site de Schwarzpumpe où cette technologie est testée déjà depuis quelques années. Donc on pourrait dire qu'à ce stade, les technologies des démonstrateurs au niveau mondial montre que la séparation est faisable technologiquement. On peut se poser la question, est-ce qu'elle est acceptable économiquement? Et puis, est-ce qu'elle est supportable d'un point de vue environnemental? J'en arrive maintenant au côté un peu plus prospectif de ma présentation. Quel est le futur, soit de ces technologies ou d'autres technologies qui pourraient apparaître? Ce qui pose la question d'éventuelles technologies de deuxième génération. Et là, on tombe dans un domaine où il y a un foisonnement de travaux, de concepts, d'articles, de brevets. De gros enjeux d'innovation et de propriété intellectuelle, avec toujours un impératif, trouver le démon de Maxwell, la boîte magique qui va permettre d'assurer un effet sélectif en consommant très peu d'énergie, avec une très grande productivité et qui soit stable dans le temps. Tous ces travaux sont très pluridisciplinaires et on a encore beaucoup de mal à établir une cartographie qui donne une comparaison rigoureuse de ces différentes filières. Parmi les technologies qu'on va pouvoir trouver, au niveau des solvants, on peut s'inspirer de ce que font les systèmes vivants avec des aminoacides. On peut faire appel à la synthèse chimique avec des molécules originales comme les liquides ioniques ou la synthèse de matériaux comme les MOF qu'évoquait M. Allègre et qui ont été développés dans l'équipe de M. Ferret. On peut chercher des analogues naturels dans les géosciences avec les hydroxydes double lamellaires ou les zéolithes naturels ou de synthèse ou élaborer des matériaux qui vont permettre la séparation en continu, ce que l'on appelle des membranes. Il y a là un portefeuille extrêmement large et pour lequel je ne me risquerai pas à faire de la prospective, la prédiction étant un art difficile quand elle concerne l'avenir, mais je vous présente ici, à titre illustratif, la feuille de route du département de l'énergie des États-Unis d'Amérique, où l'on voit que différentes générations de procédés pour les différentes technologies que sont la post-combustion, la pré-combustion que je n'ai pas traitée et l'oxycombustion sont envisagées, avec à chaque fois une diminution du point de vue des coûts associé à cette étape de capture, et puis bien sûr une dynamique de déploiement de plus en plus lente lorsque l'on aboutit à des travaux qui sont encore dans les cartons des chercheurs. Le dernier transparent m'incite à évoquer quelque chose qui relève peut-être de la science-fiction ou de l'utopie, mais idéalement, on aimerait pouvoir peut-être utiliser le CO2. Et en ce moment, il y a énormément de travaux là-dessus. On se pose beaucoup de questions sur la faisabilité, l'intérêt, l'effet de levier de ces technologies que l'on peut convertir par voie chimique, par voie photocatalytique, à l'aide de plantes dans des serres, avec bien sûr des microalgues ou des micro-organismes. Et c'est l'enjeu d'énormément de travaux à l'heure actuelle, mais pour un horizon beaucoup plus lointain que celui que j'ai traité au début de mon exposé. On peut se poser la question d'une remise en question de la manière dont on traite la combustion aujourd'hui. Est-ce qu'on ne va pas s'orienter vers des schémas de combustion beaucoup plus intégrés ? Et alors qu'aujourd'hui, on a traité dans un premier temps les émissions soufrées, puis les oxydes d'azote, maintenant les émissions carbonées, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles solutions qui vont apparaître, des ruptures qui intégreront ces trois composés avec les captures associées, les procédés biomimétiques ? Une société aux États-Unis utilise l'anhydrase carbonique, qui vient de la biologie, en milieu carbonaté, pour assurer avec des membranes liquides l'extraction en continu et à faible coût énergétique. Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que ça va être une technologie qui va envahir et qui va apparaître à un horizon temporel pas trop éloigné? Et bien sûr, on peut se poser la question de l'extension de ces technologies aux sources diffuses. Autant d'enjeux qui nécessitent beaucoup de travaux, qui soulèvent beaucoup de questions, auxquelles je n'ai pas répondu totalement dans mon exposé, et je m'en excuse, et ce qui m'amène, pour respecter le temps imparti, aux conclusions et perspectives relatives à cette étape de capture pour la séquestration du dioxyde de carbone. Un premier point, c'est de bien considérer que le CCS, ce n'est pas la solution unique à la problématique des émissions de gaz à effet de serre, mais ça peut être, dans un bouquet de solutions, un levier extrêmement important. Un autre point sur lequel j'insiste toujours, c'est qu'il y a une telle diversité typologique des sources de CO2, une telle diversité des procédés potentiellement utilisables, et puis surtout un cadre réglementaire qui n'est pas encore totalement défini. Quel est le niveau de pureté que l'on recherche ? À ma connaissance, la directive de l'Union européenne n'a pas encore fixé la valeur de Y de mon exposé. Il n'y aura donc pas un procédé unique de capture du CO2. Je pense qu'on va aller vers des choix et des solutions technologiques qui pourront être très, très diverses en fonction des secteurs visés et puis des impératifs associés. Il y a de nombreux défis scientifiques et technologiques à relever au travers de travaux pluridisciplinaires. Et je pense que le facteur 2, à savoir descendre à 2 gigajoules thermiques par tonne de CO2 capturé et 20 euros par tonne, est probablement atteignable à assez court terme avec les technologies qui sont en développement. D'un point de vue de recherche, il y a une très grande difficulté. C'est d'assurer la dynamique de déploiement avec les démonstrateurs sans rompre pour autant les recherches en amont sur les technologies de deuxième et troisième génération. Et puis enfin, j'aimerais souligner que si cette capture du CO2 est réalisable technologiquement, sa diffusion nécessitera une acceptabilité sociale, d'évaluer correctement l'impact environnemental, d'avoir un cadre juridique qui soit clair, et bien sûr, de réfléchir aux mécanismes économiques incitatifs qui permettraient de déployer cette filière. J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention.
Donc, Alain Bonneville, les expériences de stockage en cours, quel bilan d'étape on peut faire de ces expériences qui sont maintenant assez nombreuses ?
Merci Claude. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames, messieurs, j'ai effectivement la lourde tâche de faire ce bilan des expériences en cours. Alors, cette tâche a été quand même facilitée par Eric, qui a auparavant présenté le contexte général, donc je n'y reviendrai pas dessus. On est dans un contexte qui a favorisé le CCS parce qu'il y a eu des engagements au niveau international et au niveau de certaines nations pour limiter les émissions de CO2. Et donc je vais passer là-dessus. Je vais simplement revenir sur l'engagement pour atteindre cet objectif qui est celui de l'Union européenne et particulièrement de la Commission européenne au travers de deux initiatives. La première, c'est l'initiative dite ZEP, Zéro Emission Fossil Fuel Power Plant Platform, donc qui est pour une centrale électrique avec zéro émission de CO2. C'est le projet dans lequel s'intègre la plupart des projets européens et qui regroupe la plupart des industries concernées. Et enfin, cette année a été lancé un appel d'offres par la Commission qui prévoit le développement d'ici 2015 de 12 pilotes de taille pré-industrielle, donc intermédiaire entre ce que je vais vous présenter et des projets qui seront proprement industriels, d'ici 2015. Et la Commission met 9 milliards d'euros de financement sur la table pour ces 12 pilotes. Voilà le contexte un peu général là-dessus. Donc on a vu ça avec Eric, je passe. Je reviens sur les états du CO2, simplement pour la compréhension de la suite de cet exposé. Le CO2, donc, on le trouve à l'état gazeux, aux pressions et températures normales. Il est dans un état dit supercritique au-dessus de 73 bars et au-dessus de 31 degrés Celsius. Cet état a pour avantage d'avoir la densité d'un liquide et la viscosité d'un gaz, ce qui le rend plus facilement injectable. Il se trouve aussi que la pression et la température correspondantes, c'est grosso modo celle qu'on atteint en profondeur à partir de 800 mètres de profondeur dans la croûte terrestre pour un gradient géothermique normal. Donc on envisage actuellement de stocker le CO2 à l'état supercritique, ce qui nécessite là aussi, bien évidemment, une étape qui va être coûteuse en énergie, puisqu'il faut comprimer le CO2. Le devenir du CO2 une fois injecté, ce petit schéma pour dire quels sont les différents états justement dans le sous-sol. Lorsqu'on l'injecte, en admettant qu'on l'injecte à 1000 mètres de profondeur, il est à l'état supercritique, il est moins dense que l'environnement, donc il va remonter. Il peut, s'il n'est pas stoppé dans cette remontée, se transpasser à un autre stade qui est l'état qui serait liquide ou gazeux, voire même gazeux, s'il continue sa remontée vers la surface. Donc un stockage de CO2 et la surveillance d'un stockage de CO2 doit avoir à composer avec ces trois états du CO2. Mon exposé, brièvement, je présenterai les types de piégeage. Ensuite, les grands types de réservoirs géologiques. J'ai oublié de préciser que je ne m'intéresserai qu'aux réservoirs géologiques, au stockage géologique. Je n'aborderai pas la question du stockage dans les océans. Je parlerai des sites existants, puisque c'est probablement le cœur de cet exposé. Et pour illustrer ces sites existants, je choisirai deux exemples. L'exemple de Sleipner en mer du Nord et Ketzin en Allemagne. Enfin, je ferai le bilan. Le stockage. Le CO2, on peut le trouver sous différentes formes, une fois qu'il est injecté dans le sous-sol. Il peut être sous la forme d'un gaz, auquel cas son piégeage sera de faible sûreté. Il peut être sous la forme soluble, c'est-à-dire solubilisé dans l'eau. Et alors là, on a une sécurité du stockage qui augmente. On peut aussi le trouver sous la forme piégeage ionique, sous forme de composé ionique. Et puis enfin, la sécurité la plus élevée sur le très long terme, parfois des millions d'années, c'est sous la forme de carbonate. Quelles sont les formations géologiques concernées par ce stockage ? Très rapidement, on considère jusqu'à présent que l'on peut stocker le CO2 dans les gisements de gaz ou de pétrole déjà exploités, qu'on peut le stocker dans les veines de charbon dans un but de récupération du méthane, et qu'on peut le stocker dans les aquifères salins profonds. Vous avez là des capacités de stockage estimées, qui sont considérables, mais qui sont vraiment estimées de façon extrêmement grossière. Et c'est un des enjeux d'ailleurs de la recherche actuelle, de mieux estimer ces capacités de stockage au niveau mondial. Vous voyez que ça excède de toute façon largement la production pendant plusieurs siècles de CO2 à la surface de notre globe, même au taux actuel. Les formations géologiques concernées, c'est, je dirais, traditionnellement celles qui sont concernées. Mais il y a aussi un dada que je défends, c'est qu'on peut aussi stocker, vous l'avez évoqué, Monsieur Allègre, on peut aussi stocker le CO2 dans des formations géologiques un peu moins classiques, tout au moins pour le milieu pétrolier. Ce sont les roches basiques et ultra-basiques. Et là, on parlera de séquestration minérale. Je voulais simplement l'évoquer, Alain Prinzhofer y reviendra plus tard dans l'après-midi. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de ces différents sites de stockage, réservoirs ? Les gisements d'hydrocarbures. C'est classique, ces slides sont classiques. Hein. Je remercierai toutes les sources documentaires à la fin de mon exposé. Donc, les avantages et inconvénients, les gisements d'hydrocarbures, ce sont des structures piégeantes. Elles ont piégé déjà, bien sûr, de l'huile et du gaz en étant géologiques. Elles sont étanches, tout au moins au gaz non réactif. Or, le CO2 est un gaz réactif, donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra tester. Ce sont des objets bien connus géologiquement. Et il y a un intérêt économique via RAH, ce qui signifie récupération assistée d'hydrocarbures, c'est-à-dire qu'on injecte du CO2 pour repousser et favoriser la récupération d'hydrocarbures. Alors, je pense qu'on est plusieurs dans cette salle à penser que la récupération assistée d'hydrocarbures, ce n'est pas vraiment du stockage de CO2, même si elle a été tentée depuis de nombreuses décennies. Je pense que ceux qui injectaient du CO2 se préoccupaient bien peu du devenir de ce CO2 et ne regardaient pas s'il restait dans le sous-sol ou pas. Ce qui comptait surtout, c'était de récupérer le maximum d'huile ou de gaz. Donc, l'intérêt économique, je crois qu'il faudrait peut-être un petit peu le mettre de côté. Les veines de charbon, là aussi, c'est quelque chose de très, très marginal en termes de cible pour le stockage, car les volumes poreux et les perméabilités sont faibles. L'avantage principal qui est évoqué, c'est la récupération de méthane possible. Venons-en aux gros réservoirs envisagés, c'est-à-dire les aquifères salins profonds, ceux qui ne sont pas utilisés pour l'eau potable. Ils ont comme un inconvénient principal d'être peu connus, forcément, puisqu'ils n'étaient pas une ressource. Ils ont pour avantage d'être énormes. On a en tout cas au niveau européen, on connaît plusieurs réservoirs, plusieurs aquifères capables de stocker plusieurs siècles d'émissions de CO2. Enfin, les roches basiques. Leur principal inconvénient, c'est la perméabilité qui est faible, donc difficulté d'injecter du CO2. L'avantage principal, le stockage sur le très long terme. J'en viens maintenant aux expériences existantes. Voici sur cette carte du monde l'ensemble des sites de stockage, des expériences en cours. Alors je n'ai mis là-dessus que celles qui sont effectives. Il y a bien sûr beaucoup de projets, on y reviendra après. J'ai sur cette diapo que j'ai reprise depuis l'Agence internationale de l'énergie, mélangé l'ensemble des sites de stockage, que ce soit pour de la récupération assistée d'hydrocarbures ou dans les aquifères salins. En ce qui concerne la récupération assistée d'hydrocarbures, vous voyez qu'en Amérique du Nord, en plus de des points qui sont figurés sur cette carte, il y a plus de 74 projets exactement de récupération assistée d'hydrocarbures avec le CO2. Mais ce que je vais concentrer cet exposé sur ce que j'appelle les vrais sites de stockage de CO2, c'est ceux pour lesquels on a véritablement conçu le projet pour stocker du CO2, avec la petite exception de Weyburn, qui est un intermédiaire entre les deux. Donc un mot de chacun peut-être. Vous avez ici leur distribution géographique. Je viens sur ce tableau, je vais vous présenter l'état de l'injection et puis surtout leur date de démarrage. On va commencer par le plus ancien, Sleipner, Norvège, 96, avec une injection de 3000 tonnes de CO2 par jour. Le stockage est prévu de 20 millions de tonnes. C'est dans un aquifère salin, nous y reviendrons en détail plus tard. Insala, ensuite Weyburn au Canada, c'est un projet de récupération assistée d'hydrocarbures, mais on injecte du CO2 à raison de 3000 à 5000 tonnes par an, l'objectif étant là d'injecter 20 millions de tonnes, mais à la différence des projets de récupération assistée classique, ils ont véritablement mis en place des outils de surveillance, ils ont associé des groupes de recherche pour faire de ce site un objet d'étude aussi. Donc c'est pour ça que je le mets dans les stockages. Après, il y a Insala qui a démarré en 2004. C'est une opération qui est opérée par... il y a BP qui en est le responsable principal. On injecte entre 3000 et 4000 tonnes par jour. Il y a 17 millions de tonnes qui est prévu. C'est dans le sud algérien. Des projets qui sont plus, à part K12B en Hollande, qui est un projet de récupération assistée d'hydrocarbures avec 8 millions de tonnes prévues au total, les autres sont des plus faibles volumes, qui ce sont véritablement des démonstrateurs sur lesquels on a voulu tester des méthodes, on a voulu tester des outils de surveillance. Et je me concentrerai sur l'expérience de Ketsin, qui est une bonne illustration de ce qu'on peut faire en la matière. Donc voici les deux sites, les deux exemples que je vais traiter en détail. Le site de Sleipner en mer du Nord et le site de Ketsin en Allemagne, dans le cadre du projet européen CO2 Sink, puits de CO2. D'abord le projet de Sleipner, c'est en mer du Nord, au large de la Norvège. C'est opéré par la compagnie Statoil. Et le contexte, c'est en fait, ce gaz, c'est un gisement de gaz d'abord, il était exploité pour déjà dans les années 80, mais il contenait un fort taux de CO2, 9%, or les spécifications pour la vente autorisaient un maximum de 2,5%, donc Statoil a commencé à exploiter le gisement en rejetant le CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, le gouvernement norvégien a instauré en 91 une taxe sur les émissions de CO2 à 50 euros la tonne émise. Comme le CO2 était déjà séparé, il n'y avait que le coût du stockage à prendre en compte. Statoil a fait un rapide calcul et a décidé de stocker le CO2. Et l'injection a débuté en septembre 1996, à raison de 1 million de tonnes par an. Donc voici le schéma qui est un peu un classique des stockages. C'est pour ça que j'ai voulu choisir Sleipner comme illustration. Vous avez une plateforme qui va extraire le CO2 d'une formation profonde qui s'appelle la formation de Heimdall, où se trouve le gaz naturel. Ensuite, en surface, il y a une séparation CO2-gaz naturel et on réinjecte le CO2 dans une formation géologique moins profonde, à 850 mètres de profondeur, l'aquifère d'Utsira, qui est une formation gréseuse. C'est une très importante formation d'ailleurs, puisque son extension spatiale totale s'étale tout le long de la côte de Norvège et la capacité de stockage représente plus de 1000 fois les émissions annuelles de CO2 en Europe. C'est le contour jaune sur cette carte. À droite, la Norvège. Voici un suivi au cours du temps. Donc, on a commencé à injecter en 1996. Et une des méthodes qui est privilégiée pour suivre l'évolution de ces stockages au cours du temps, c'est les profils de sismique réflexion 3D, c'est-à-dire en trois dimensions très denses, que l'on réitère au cours du temps, d'où la notion de méthode sismique 4D. En 1994, une première campagne sismique au travers de ce qui sera le réservoir. Alors le point d'injection, j'aurais pu le faire figurer là-dessus, il est là à peu près, à cet endroit. Donc un état pré-injection. Ensuite, en 1996, on commence à injecter. En 1999, on refait une campagne sismique. Et ce que l'on voit apparaître en rouge et bleu, ce sont les réflexions très importantes dues à la présence de gaz dans les différents niveaux du grès du Tsira. Et on voit ensuite, on va répéter cette campagne d'acquisition sismique. On la répète en 2001. Alors j'aurais pu vous préciser sur cette diapositive, que ici, ce réflecteur-là, c'est le toit de la formation du Tsira. C'est le début des formations imperméables. Au-dessus, il y a plusieurs centaines de mètres de formation, de couverture argileuse imperméable. Donc les premières campagnes montrent effectivement une bulle de CO2 parce que le gaz est très réflecteur. Donc on a des bright spots qui correspondent au déploiement du CO2 dans la formation du Tsira. Lorsqu'on le répète en 2002, on a injecté déjà 5 millions de tonnes de CO2. C'est la même chose, ça reste bien cantonné dans la formation du Tsira. De même en 2004 et 2006. Vous avez l'échelle en bas à gauche, 3 km d'extension. Après 3 ans d'injection, voici reconstitué, donc là on se trouve en 1999, voici reconstitué le panache gazeux du CO2 en profondeur. C'est la saturation en gaz des différents niveaux concernés. Et ça représente, voyez, j'ai indiqué 800 mètres de rayon pour la plus grosse bulle, celle du milieu, et 200 mètres de haut pour le panache total. Alors ça, c'est le constat, c'est la sismique qui nous donne ça après 3 ans. On aurait pu reprendre les profils de 2006, mais je ne les ai pas trouvés. Je n'ai pas trouvé cette reconstitution dans la littérature. Je pense que c'est simplement une densification de certains niveaux. Et il y a eu aussi des modélisations, bien sûr, du comportement de ce CO2 dans cet aquifère sur le long terme. Et ce que vous voyez là, c'est des modélisations au cours du temps. On simule la dissolution du CO2 parce qu'à partir du moment où on va cesser l'injection, la dissolution du CO2 dans l'eau va prendre le pas sur tous les autres phénomènes et ça va se traduire par un approfondissement du niveau auquel on va trouver le plus de CO2. C'est une modélisation sur quasiment 5000 ans du comportement de ce CO2. Donc le bilan après 13 ans d'injection, le suivi sismique a montré son efficacité, même s'il reste amélioré sur le plan d'interprétation quantitative. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on sait où est le CO2, mais grosso modo, on ne sait pas combien de tonnes il y a à tel endroit, à telle profondeur. Donc ça, c'est des travaux qu'il convient de mener. Les outils numériques de simulation de réservoirs ont été testés et améliorés au cours du temps. La connaissance géologique de la formation du Tsira a été améliorée, bien évidemment, au cours de ces 13 années. Et on peut penser, à la fois au vu du comportement pendant ces 13 ans et au vu des simulations maintenant améliorées, que le CO2 va rester là pour quelques milliers d'années. Maintenant, je vais vous parler de Ketsin. Ketsin, c'est donc un site un peu différent. Ketsin est le fruit et se trouve donc dans la banlieue de Berlin, exactement à quelques kilomètres de Potsdam. C'est un site qui est opéré par le GFZ, un organisme de recherche. Ketsin, ce n'est pas une compagnie pétrolière qui le mène, ce projet. C'est un consortium d'universités et de compagnies rassemblés au sein d'un programme du 6e PCRD qui s'appelle CO2Sync. Il s'agissait d'élaborer dès le départ un laboratoire grandeur nature. On n'est pas dans une logique industrielle, mais on était vraiment dans une logique laboratoire pour améliorer les procédés d'injection et de stockage du CO2, pour mieux comprendre le devenir du CO2, pour développer les outils de surveillance, pour développer un guide de bonne pratique du stockage géologique du CO2. Et là, on pourrait dire que ces 4 points sont véritablement la Bible ou les objectifs principaux d'un démonstrateur de CO2, tels qu'ils ont pu être conçus, en tout cas, depuis 20 ans, et tels qu'ils le seront probablement dans les 5 ans qui viennent encore. Ketsin est un ancien site de stockage, donc en termes d'acceptabilité de gaz naturel, donc en termes d'acceptabilité par les populations, il n'y a pas eu trop de problèmes. Ils avaient l'habitude de vivre sur un site de ce style. Le gaz naturel était stocké dans des grès à faible profondeur. Bon, ça, c'est le contexte. Juste pour vous donner une idée de la complexité du consortium qui a été monté autour de ce projet, et encore, je n'ai pas tout mis. Le calendrier, le projet a démarré en avril 2004. Ils étaient prêts pour le forage en mars 2006, mais des questions à ce moment-là de disponibilité de plateforme, de prix de l'acier, de disponibilité de tête de puits, n'ont pas permis de démarrer avant 2007. De démarrer les forages avant 2007 et d'injection avant 2008. La situation, bien sûr, serait différente actuellement. Voici une coupe géologique réalisée au travers de la formation où ils vont injecter. Il s'agit d'un anticlinal. L'ancien réservoir de stockage de gaz est dans des grès à 250 mètres de profondeur et l'objectif est à 700 mètres de profondeur, là aussi dans des grès, avec une couverture argileuse extrêmement imperméable au-dessus. À titre illustratif, Qu'est-ce qu'on a surveillé? Je pense que Laurent Jeanne reviendra bien évidemment sur les outils de surveillance, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on veut surveiller sur un démonstrateur de stockage de CO2? Ce qui nous intéresse d'abord, c'est la migration du CO2, quels sont les chemins préférentiels d'écoulement, etc., ce type de choses. Quel est le comportement du CO2 en profondeur? Son hydrodynamique, sa solubilité, l'évolution de sa solubilité, pardon, la séquestration minérale, peut-on la quantifier? Et puis aussi, une chose qui est peu abordée, c'est quel est le rôle de la biosphère profonde en profondeur, quel est, sur la cinétique des réactions notamment. On s'intéresse aussi aux méthodes d'injection, donc on aura un contrôle en continu de la pression. On s'intéresse bien évidemment à l'intégrité de la couverture et à l'intégrité du réservoir. Deux objectifs en faisant ça. Améliorer la gestion, le management du réservoir et construire un modèle d'évaluation du risque qui permet de connaître l'évolution à long terme du stockage. Donc il me reste 2 minutes, je vais raccourcir. C'est pas très grave, c'est de la géochimie. Les scénarios permettent de remonter à des analyses, des scénarios de simulation permettent de remonter à des analyses de risque, je vais passer là-dessus. La conclusion sur Ketsin. Le projet a démarré en avril 2004. Il a été assez long pour obtenir toutes les autorisations pour stocker le CO2, à la fois parce que c'est quelque chose de nouveau. Je pense que Nicolas Aymar reviendra aussi là-dessus. Dans tous les pays, actuellement, on est en train de se dire quel corpus de loi on va pouvoir mettre en œuvre ou des règlements pour pouvoir contrôler le stockage de CO2. Ils ont réalisé 3 puits avec des outils de surveillance intégrés. L'état zéro, c'est-à-dire avant injection, a été fait. Et l'arrivée du CO2 au premier puits d'observation, quelques mois après l'injection, s'est faite au moment prévu par les modèles. Et les premiers résultats sont en cours d'interprétation par le consortium que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, quelle première conclusion tirer de ces années de stockage, de sites de démonstration? Eh bien, on a déjà injecté des millions de tonnes de CO2 sans problème majeur sur plus de 9 sites. Là encore, je ne parle pas des endroits où on a fait de la récupération assistée d'hydrocarbures. Les outils de modélisation et de surveillance ont été testés et améliorés. Ça a avant tout servi à ça. La maîtrise technique semble donc acquise, effectivement, mais il reste un certain nombre de questions fondamentales, au nombre desquelles je citerai la prédiction du devenir du CO2 stocké sur des milliers d'années après l'injection. C'est quand même la question fondamentale. La modélisation d'injection de grands volumes de gaz, car pour l'instant on est resté à quelques centaines de tonnes, voire milliers de tonnes, mais qu'en est-il du stockage de millions de tonnes dans des réservoirs géologiques? Enfin, le contrôle et la gestion des processus d'injection au niveau du forage et du réservoir, ça aussi c'est une grande question. Trois autres points. Quel outil choisir pour la surveillance long terme du site? On va pas, après la fin de l'injection sur un site, on ne va pas faire de la sismique 4D tous les 2 ans, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc il s'agit de développer des outils qui vont être adaptés pour une surveillance sur plusieurs siècles. Quel est le rôle de la biosphère profonde? Je l'ai évoqué. Et enfin, il faut avoir maintenant des sites de démonstration dans tous les contextes géologiques possibles, y compris les roches basiques. Donc, en termes de conclusion, je dirais qu'il est indispensable de disposer sur les 5 à 10 ans à venir de sites tests largement ouverts à la communauté scientifique, hein, avant de passer à une échelle plus industrielle. Voici le calendrier qui est prévu. Hein. Nous sommes actuellement à la fin de cette période de recherche et développement. On est en plein milieu de la démonstration. Le passage à l'échelle industrielle est prévu avant 2030 et la commercialisation dans les années 2025 à 2040. Voici un peu la carte des sites qui sont prévus dans les 5 ans à venir. Vous voyez qu'on est passé à une dizaine de sites, à plus d'une trentaine de sites. Et pour la plupart, les projets sont déjà vraiment bien, bien, bien engagés. Je vous remercie pour votre attention.
C'était Alain Bonneville du laboratoire de géosciences marines à l'Institut de physique du Globe de Paris. Il évoquait les expériences de stockage du CO2. Le précédait Éric Favre du laboratoire des sciences du génie chimique ENSIC à l'Université de Nancy. Il s'exprimait sur les problèmes liés à la capture du CO2 et c'est Claude Allègre qui a introduit cette séance. Restez à l'écoute de nos émissions et téléchargez les 2 autres volets de cette séance. Téléchargez également l'émission réalisée en compagnie d'Alain Bonneville intitulée « Capturer et stocker le CO2 ». De sous terre. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.